Le mag de la vie quotidienne sur Plus FM.
Tout de suite, le mag de Plus FM présenté par Nicolas Terrien. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous. Le mag de Plus FM consacré ce matin à la promotion de la santé, puisque c'était hier, un jour pour jour, que la charte d'Ottawa a été signée. C'était le 21 novembre 1986. À cette occasion, la FRAPS Centre Val-de-Loire, par FRAPS comprenait la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé, eh bien, propose une semaine d'échange, coordonne effectivement toute une programmation qui est surtout l'opportunité de mettre en lumière les actions des différents et nombreux partenaire de cette initiative. La preuve autour de cette table dans les studios de Plus FM ce matin en compagnie de Gildas Viaraf notamment. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur donc de la FRAPS Centre Val-de-Loire. Françoise Poisson, bonjour.
Bonjour.
Présidente de la Banque Alimentaire de Loire-et-Cher, la Banque Alimentaire qui effectuera sa grande collecte, en l'occurrence le week-end prochain, donc vendredi, samedi
et dimanche
matin. Et également dimanche matin, voilà un événement important que vous nous, bien sûr, qu'on abordera. Avec nous également Laetitia Chéreau, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère technique santé à la PJJ. La PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Et Laetitia Zampolin, bonjour.
Bonjour.
Directrice de l'ANPA, c'est l'Association Nationale de Prévention en alcoolologie et addictologie. Merci aussi à vous d'être présente dans les studios de Plus FM pour évoquer effectivement les 30 ans de la charte d'Ottawa, donc Gildas Viaraf, donc cette charte qui fête ses 30 ans. De quoi s'agit-il ?
Avant tout, je voudrais dire qu'on a l'opportunité aujourd'hui en région centre d'avoir une semaine complète dédiée à la charte d'Ottawa. Ça veut dire que partout en région, vous allez avoir des événements, des événementiels, conférences, théâtre, cinéma, séminaires, salons, etc. Et donc, vous pouvez vous procurer un petit document, donc un petit fascicule qui est dédié au programme de la journée, partout, partout
où on a pu le mettre. Petit fascicule de 30 pages, tout de même.
De 30 pages, quoi, pour vous dire qu'il y a de l'événementiel. Mmh. Et puis, donc, allez sur le site de la FRAPS, www.frapscentre.org.
Voilà, c'est ça, je vous le confirme. Effectivement, c'est inscrit en gros sur le document.
Oui.
Alors, je repose ma question, la charte d'Ottawa.
Alors, la charte d'Ottawa, je vais vous le faire court et long en même temps, en fait. En 1986, vous permettez que je fasse un petit historique ?
Allez, un petit historique.
Allez. En 1986, vous avez différents professionnels de santé qui se sont réunis à Ottawa, justement, pour essayer de réfléchir à la santé pour tous en 2000. Et après.
Ottawa, qui est la capitale du Canada, comme chacun sait.
Qui est la capitale du Canada. Et donc, à l'occasion de cette conférence, ils ont pu, alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de définition de la promotion de la santé, mais en tout cas, établir une définition de la promotion de la santé, qui est un processus qui confère aux populations les moyens d'être acteur de sa propre santé et de pouvoir l'améliorer. Donc, à travers cette définition, pour pouvoir interagir, agir en promotion de la santé, ils ont établi cinq axes importants et intéressants qui vont conduire en fait notre semaine, puisque l'idée c'était de dire 5 axes pour 5 journées. Voilà, donc après je pourrais vous l'expliquer un peu plus longuement l'idée de ces axes.
Ça a été un tournant justement, cette charte d'Ottawa dans la promotion de la santé ?
Complètement, c'était l'occasion pour ces différents professionnels de pouvoir mettre très au clair ce qu'ils souhaitaient faire pour la santé des populations. Et donc, quand on dit promotion de la santé, on diffère légèrement de la prévention, parce que là, on est dans un processus, on est dans l'autonomisation des personnes, on est dans de l'empowerment aussi des personnes. Donc, c'est quelque chose de plutôt continu. Et puis, on a essayé...
Être acteur de sa santé, quelque part.
Être acteur de sa santé, mais pas seulement avec des préalables à la santé, qui était la paix, le revenu, etc. Enfin, pas mal de préalables qui nous permettent après de pouvoir travailler efficacement en promotion de la santé.
Donc, vous évoquez ces 5 axes.
Oui.
5 axes majeurs, peut-être évoqués. Donc,
ce que représentent
ces priorités.
Voilà. Donc, je vais les lire rapidement et après, j'y reviens légèrement. Donc, axe 1, élaborer une politique publique saine. Axe 2, créer des milieux favorables. Axe 3, renforcer l'action communautaire. Axe 4, acquérir des aptitudes individuelles. Et axe 5, réorienter les services publics, les services de santé. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien compris. Donc, il faut prendre un petit exemple. Ce mois-ci, dans le mois sans tabac, vous savez, ce fameux mois qui nous permet...
On va en parler, bien sûr.
Voilà, on va en parler, puisqu'on a la chance d'avoir autour de la table Madame Zampolin au niveau de l'EMPA et des addictions. L'idée globale de la promotion de la santé, donc de ces cinq axes, si je prends l'exemple du tabac, c'est de pouvoir établir en termes de plan d'action pour pouvoir arrêter, évidemment, tout un plan d'action qui ne se limiterait pas au travail que nous faisons, nous, au niveau des associations, mais à un travail collectif au niveau sociétal. Élaborer les politiques publiques saines. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est toutes les lois qui sont sorties et qui sortent encore. Hein. Je vais vous parler de la loi Evin, par exemple, pour ne pas fumer dans les lieux publics, mais il y a également plus près de nous la loi de santé, donc la loi de modernisation de Marisol Touraine de cette année, où on nous dit par exemple qu'il ne faut pas fumer dans un véhicule où il y aurait des enfants derrière, voilà, avec tout un tas de mesures. Et donc ça, c'est important de pouvoir établir que les politiques publiques s'en emparent. Donc ça, c'est une première partie, c'est cet axe 1. L'axe 2, créer des milieux favorables, c'est toute la partie, en fait, communication qu'on peut avoir aussi au niveau du mois sans tabac. On permet à chacun de pouvoir mieux être informé donc sur le volet tabac et puis peut-être d'aller sur un critère favorable d'arrêt. Dans cette pièce, par exemple, je vois qu'il n'y a pas le petit logo « Arrêtez de ne pas fumer ».
On n'est pas des voilà. Bulles de boissons non plus, on n'est pas un lieu public.
Voilà, on n'est pas un lieu public. Mais voilà, le milieu favorable, c'est un milieu qui ne permet pas justement de pouvoir, où on a mis les conditions favorables pour pouvoir ne pas fumer. L'axe 3, renforcer l'action communautaire. On est sur toute la partie santé communautaire et travail en communauté que nous faisons tous au niveau associatif, hein, enfin, en tout cas pour beaucoup, qui peut permettre à chacun de pouvoir arrêter. Je prends l'exemple de l'éducation nationale. Les élèves peuvent avoir une action collective avec des professionnels de santé, l'EMPA, Addictocentre et d'autres professionnels pour essayer de faire en sorte que les élèves s'en emparent de cette action, puissent être acteurs de l'action et pouvoir aller vers l'arrêt du tabac. On parle de prévention par les pairs aussi, donc on est vraiment sur cet axe-là. Mmh. Acquérir les aptitudes individuelles. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'estime de soi, de compétences psychosociales, du travail qu'on doit faire avec les différentes personnes pour qu'ils soient en capacité de pouvoir arrêter de fumer. Donc on serait sur cet axe, acquérir des aptitudes individuelles. Et puis l'axe 5, réorienter les services de santé. On va parler par exemple de formation, je donne un exemple tout bête, hein, des infirmières scolaires qui devraient après conduire les élèves, ou pas que les élèves d'ailleurs, mais bon, c'est principalement des lycéens ou collégiens, à arrêter de fumer. Donc voilà, en balayant ces cinq axes, une société...
À travers cet exemple,
du tabac, eh bien, on se donne les moyens... que s'étaient donné les professionnels en travaillant sur cette charte de pouvoir être le plus efficace possible sur les actions de promotion de la santé.
Voilà, donc des personnes qui peuvent intervenir aussi à différents niveaux. Donc le rôle de la FRAPS, justement, dans tout cela
Le rôle de la FRAPS, c'est un rôle d'incitateur, de coordonnateur avant tout, et puis de fédération surtout. L'idée pour nous, c'est d'être au plus près de nos différents partenaires, qu'on a autour de la table, en tout cas pour partie, et puis de les accompagner dans leurs actions. On propose du conseil méthodo, de la formation, de la documentation pour essayer d'être le plus pointu possible en promotion de la santé. Il y a un vrai lobbying derrière ça. Hein. L'idée, c'est quand même de pouvoir s'emparer du volet promotion de la santé. Nous sommes des personnes engagées, faut savoir le dire. Engagées, pas pour n'importe quelle cause, pour une cause de santé, pour la personne. Et l'idée, c'est de pouvoir guider toujours les personnes qui le souhaitent, en tout cas, avec une vraie liberté d'expression, de faire, de pouvoir prendre les bonnes décisions pour leur santé.
Ouais, donc la FRAPS qui fédère les acteurs de la promotion de la santé, c'est l'APS, en l'occurrence, de l'acronyme. Ça représente combien de structures à travers la région ?
Nous sommes à 62 structures au travers la région. Donc il va y avoir des hôpitaux, les services de l'hôpital, l'université, les services de l'université, des associations par thématique. Addiction, cancer, alimentation, etc. Et puis la Mutualité Française Centre, un vrai partenaire, notamment pour l'organisation de la journée d'hier.
C'est la journée d'ouverture à Orléans ?
La grande journée d'ouverture à Orléans qui est lancée cette semaine.
Voilà. On va faire la connaissance avec trois structures qui sont avec nous autour de la table pour témoigner aussi de leur engagement, bien évidemment, au quotidien. Sur le terrain, on va commencer avec vous, Françoise Poisson. Bon, faut-il présenter la Banque alimentaire de Loire-et-Cher ? Oui, c'est toujours utile, surtout en cette période.
Oui, alors la Banque alimentaire de Loir-et-Cher est une structure qui n'a absolument pas accès directement avec les bénéficiaires, mais qui fournit des denrées alimentaires via les associations et les CCAS.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distribution en direct.
Non, il n'y a pas de distribution. Nous sommes dans le département, nous fournissons tous les CCAS et associations, et nous avons à peu près, grosso modo, 10 000 bénéficiaires. Et là, chaque année, nous organisons notre collecte nationale qui aura donc lieu cette année, toujours le dernier week-end de novembre, hein, c'est ponctuel. Donc ce sera pour cette année 25, 26 novembre et 27 novembre.
Voilà, donc le week-end prochain, la mobilisation, on va bien sûr en parler largement dans quelques instants. Pour en revenir donc sur la banque alimentaire, vous nous expliquiez effectivement que vous ne faites pas de distribution en direct, donc vous appuyez sur les centres communaux d'action sociale.
Voilà, c'est ça, en fonction des bénéficiaires qu'ils ont, viennent chercher les denrées que nous récoltons dans les grandes et moyennes surfaces du département et que nous redistribuons dans un souci alimentaire assez pointu, parce qu'on est obligé de pouvoir, au niveau diététique, de pouvoir
il y a des normes,
respecter des
normes
alimentaire, oui, d'équilibre, voilà, merci. Au niveau de l'équilibre alimentaire, bon, alors c'est pas toujours facile, parce que on prend que les denrées que l'on nous donne, qui sont en fin de vie, donc faut les redistribuer très très vite. Et nous avons pour l'Europe, nous avons les produits de l'Europe et puis les denrées de l'État pour les épiceries sociales. L'Europe, c'est dédié aux associations et CCAS.
Voilà, c'est ça. Enfin, donc, parce que les associations caritatives aussi, que vous pouvez être amené à approvisionner aussi,
dès l'instant où il y a eu l'agrément alimentaire, dès l'instant où il y a un agrément alimentaire, on distribue.
Vous avez une actualité il y a quelques semaines, ces nouveaux locaux.
Ah oui, hein, on a emménagé. Oui, on a. Alors, on est dans des bâtiments modulaires entièrement financés par la ville de Blois. Alors, je remercie effectivement la municipalité d'avoir pu accéder à notre souhait. Donc, nous sommes très bien installés. Nous sommes en plus à côté de l'entrepôt, ça c'est pratique. Donc, ça nous permet de faire un travail de qualité. Enfin, on en faisait avant, bien sûr, mais c'est encore plus agréable pour les bénévoles qui sont là.
Voilà, les bénévoles, on leur lancera un appel. Hein,
oui.
On sait que c'est là que le bas blesse en,
voilà,
en ce qui,
tout
en ce qui
à
vous
fait.
Concerne.
Oui, parce qu'on mobilise sur le département à peu près 1000 bénévoles.
D'accord, ok. Avec nous également, donc, Laetitia Zampolin, donc, directrice de l'ANPA, c'est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Un mot de présentation de l'ANPA, donc ses missions, même si beaucoup de choses, bien évidemment, sont dites dans l'intitulé de la structure.
Donc, l'ANPA 41 dispose sur le département d'un service de prévention-formation qui intervient sur l'ensemble du département auprès des jeunes en milieu scolaire. Alors, ce soit auprès des établissements de primaire, mais aussi des collèges, des établissements aussi type lycée, CFA. On est sur justement le travail des compétences psychosociales. Ensuite, on peut intervenir aussi auprès des professionnels pour accompagner les entreprises à mettre en place des procédures, gérer les consommations de produits sur le lieu de travail.
Alors, quand on parle produit, on a pris l'exemple du tabac, mais bon, il y a l'alcool, il peut y avoir.
Il y a l'alcool, il y a
drogues.
Tout ce qui est produit, bien sûr, type cannabis, voilà. Et puis aussi auprès des salariés, puisque c'est bien de pouvoir cadrer pour l'entreprise, mais aussi de sensibiliser les salariés aux consommations.
Sont souvent démunis, hein, d'ailleurs, les entreprises face à l'attitude parfois de certains salariés
par rapport
à cela.
Oui, bien sûr. Donc nous, on peut accompagner ces entreprises dans l'élaboration des procédures. Et ensuite, on peut intervenir auprès des publics en situation de précarité. Donc ça va être le cas dans le cadre du mois sans tabac, où là, on va intervenir à la passerelle pendant les lieux de collecte alimentaire, enfin où les personnes vont venir chercher un peu ce dont ils ont besoin, on va pouvoir intervenir en même temps.
Voilà, ça c'est la grande action du mois de novembre. Voilà. On va en reparler aussi dans quelques instants pour en revenir donc à la LANPA. Donc finalement, ce sont des missions que vous assurez à l'année.
Tout à fait. Et ensuite, on a un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, où là, on est vraiment sur du soin, alcool, tabac et jeux.
Donc c'est vraiment tout type d'addiction.
Alors sur la prévention et la promotion de la santé, oui effectivement, puisque la question c'est pas de savoir forcément ce qu'un individu consomme, c'est à un moment donné pourquoi il consomme. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quels vont être les freins et les leviers pour la consommation. Voilà. Donc nous on essaye de travailler sur toute cette dimension-là jusqu'à l'accès aux soins. Ensuite, en termes de soins, pour l'ANPA, elle est spécialisée alcool, tabac et jeux. Et on a notre siège social sur Blois, aux 2 rue Sainte-Anne. Et ensuite, nous avons des permanences sur Saint-Laurent-Nouan, Vendôme, Romorantin et Noyers-sur-Cher.
Donc, vous avez véritablement une vocation départementale.
Tout à fait. Tout à fait. Et même régionale et nationale, puisque nous sommes unitaires. Hein. Tout à fait.
La PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Merci aussi donc Laetitia Chéreau d'être avec nous. Vous êtes conseillère technique santé. Un mot de présentation de la PJJ, oui, s'il vous plaît.
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une branche donc du ministère de la Justice. Elle a en charge de mettre en œuvre les décisions des magistrats pour enfants. Ce sont des équipes pluridisciplinaires composées d'éducateurs, d'assistantes sociales, de psychologues et de professeurs techniques, pour mettre en place donc les décisions des magistrats pour enfants. Ce sont des équipes dans chaque département.
Vous êtes combien, par exemple, dans le Loir-et-Cher?
Alors, dans le Loir-et-Cher, il y a deux unités, une vingtaine de professionnels.
Voilà, donc ça représente quand même donc une équipe importante. Donc vous le disiez, psychologue, assistante sociale.
Une équipe pluridisciplinaire pour faire une évaluation de la situation sociale, professionnelle, scolaire et familiale du jeune. Et pour échanger avec lui sur donc sa situation et son opinion sur le délit qu'il a commis, puisque ses décisions sont dans un cadre pénal majoritairement.
Quelque part qu'ils comprennent la sanction, le cas échéant.
Exactement. Donc ça reste une mesure contrainte, puisque décidée et ordonnée par le magistrat. Mais c'est un temps éducatif qu'on peut justement prendre pour un tremplin pour lui construire le parcours de sa vie.
Voilà, c'est ça, retenir l'enseignement de cela. Donc l'accompagnement de la personne elle-même, donc condamnée, contrainte en l'occurrence. De la famille aussi, le cas échéant.
Exactement, puisque nous, on prend en charge des mineurs, donc de 13 à 18 ans. C'est un mandat individuel, ça veut dire qu'on travaille bien sûr pour ce jeune dans sa situation globale, mais on travaille bien sûr avec les parents, puisqu'ils gardent bien sûr la responsabilité. Les jeunes sont majoritairement pris en charge en milieu ouvert. À 80%, ça veut dire que le jeune reste dans sa famille. Toutes les mesures sont complémentaires, placement, insertion, milieu ouvert, mais les mesures majoritaires sont dans milieu ouvert et donc les jeunes restent chez eux. Ils sont suivis par entretien. Un entretien et un accompagnement, puisque les entretiens restent des prises en charge donc individuelles, mais ça reste bien sûr des adolescents et des très jeunes. C'est pas toujours évident pour eux de s'exprimer, de mettre des mots sur leur situation. Donc il y a différentes prises en charge et c'est là tout le travail des professionnels de diversifier leur façon de prise en charge avec des partenaires, avec des actions. Et donc en entretien et en accompagnement pour les accompagner dans des structures, bien sûr, telles que l'AMPA.
Donc il y a des interactions aussi avec les lieux, vous orienter, bien évidemment.
Et des actions collectives, puisque toujours la relation duelle avec un jeune n'est pas toujours une façon de le mettre à l'aise. Et c'est l'idée, en lien donc, avec la santé, de prendre aussi la santé comme moyen de réussite éducative. Pour les aider à mettre en place tous leurs projets.
Très bien, bah merci Gilles d'Azira. Donc pour revenir effectivement sur cette semaine hein, donc consacrée eh bien, aux 30 ans de la charte d'Ottawa, vous avez imaginé tout un programme de, j'allais dire d'animation, mais quelque part d'ouverture hein, naturellement vers le grand public, c'est l'objectif.
Oui, oui, oui. L'idée, c'est de faire connaître cette fameuse charte d'Ottawa, en fait, hein, puisque peu de monde connaissent la charte d'Ottawa, et j'irais même un peu plus loin, peu de monde connaissent la promotion de la santé. On vulgarise rapidement en parlant de prévention. La promotion de la santé, c'est un ensemble un peu plus vaste qui intègre des actions de prévention.
Vous avez bien fait le distinguo entre promotion et prévention.
Ben oui, sur la prévention, l'idée c'est de pouvoir éviter la survenue de maladies ou d'accidents. Sur la promotion de la santé, vous êtes sur un processus un peu plus large qui permet aux populations de pouvoir s'emparer, c'est le côté empowerment de sa santé, et puis d'œuvrer à l'améliorer. Donc on est sur quelque chose de continu et on est sur quelque chose qui englobe aussi de l'éducation.
Dans une conduite quelque part, une attitude
Oui, une attitude. L'idée c'est d'acquérir les bonnes conduites qui nous permettent de pouvoir faire des choix éclairés plus largement et plus globalement. On pourrait le retrouver dans la santé, mais là on est dans un processus large. On va y intégrer de l'éducation à la santé, de la santé communautaire, des actions de prévention évidemment, mais ça doit rentrer dans un continuum qui doit permettre justement à la personne de pouvoir être complètement acteur de ce processus. Mmh. Et donc là, on évolue un petit peu puisque on est arrivé avec les premières notions de promotion de la santé dans la loi de 2004. De santé publique, et aujourd'hui sur la loi Touraine on a véritablement le mot promotion de la santé qui apparaît plusieurs fois, et on le met même en axe 1, puisque l'axe 1 c'est de pouvoir prévenir.
Ça veut dire que c'est pris placé au rang de priorité par les décideurs politiques en l'occurrence.
On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. C'est une belle avancée. C'est une belle avancée. C'est une satisfaction. Je vais attendre encore un peu. Dès que les décideurs vont nous donner un peu plus d'argent aux uns et aux autres pour pouvoir mieux travailler ce volet prévention et promotion de la santé, je dirais que c'est une belle avancée. En tout cas,
ils ont une reconnaissance.
Il y a déjà une reconnaissance. Voilà, on va plutôt parler de reconnaissance. C'est vrai que les temps sont difficiles pour tout un chacun, mais on est sur un lobbying qui nous fait dire aujourd'hui, par rapport aux études, par rapport aux chiffres, que travailler en amont sur la promotion de la santé permet de faire réellement des économies au système de santé plus globalement, hein, pour ne pas comparer soins et prévention, c'est pas le but, mais c'est vraiment pour pouvoir affirmer l'importance de ces notions de promotion de la santé et de prévention, pas seulement dans les pays du tiers-monde, puisqu'on a souvent tendance à parler de ces sujets dans les pays pauvres, mais dans nos pays, réellement, on ferait des économies et on fait des économies à pouvoir travailler avec des données probantes, avec des évaluations, avec ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a des actions qui portent satisfaction et il y a un véritable travail qui est fait par les différents partenaires. Et c'est toujours important de le saluer. Donc, je terminais sur un petit mot là-dessus, parce que c'est aussi un petit coup de gueule que j'ai par rapport aux associations et aux baisses de subventions. Je suis un peu jugé parti
parce que je suis aussi élu. Ville de Blois, hein.
Oui, mais c'est pas parce qu'on est élu qu'on a les rênes et l'argent pour pouvoir distribuer à l'ensemble des associations.
Il y a arbitrages.
Il y a des arbitrages, mais on a aussi des coupes budgétaires qui nous viennent d'un petit peu plus haut, et donc on est obligé de les subir aussi nous sur le terrain. Et ça, je trouve ça vraiment dommage.
Donc, qu'en pense l'élu directeur d'association ?
L'élu directeur d'association, comme la plupart des associations, il aimerait bien qu'on garde aux associations ce pouvoir d'agir, cette liberté de pouvoir penser, construire, imaginer, qui a fait justement, qui fait la vie publique et le bien vivre ensemble de la France depuis plusieurs années. Ça serait dommage qu'on lui coupe les pattes à ce procédé associatif, parce qu'on est dans la réduction globale des associations au niveau des politiques publiques, que je peux comprendre.
Il y a la baisse des dotations,
la baisse des dotations,
il y a la volonté,
etc.,
de ne pas accabler les citoyens d'impôts locaux, en
l'occurrence. Oui, 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 oui. Mais il y a aussi le service public, et on peut pas d'un côté parler du vivre ensemble, du travail intéressant des associations, des délégations de services publics, etc., et puis ne pas permettre à ces structures de pouvoir bien faire leur travail. Donc il y a peut-être un entre-deux à trouver, il y a peut-être plus d'imagination à donner, et ça serait de bon temps de pouvoir réfléchir et d'être très cohérent sur ces différents sujets.
Voilà. C'est une réflexion globale, hein,
c'est une réflexion
du territoire, bien évidemment. Hein.
Et moi, je l'ai un peu plus précisément en promotion de la santé, puisqu'on est aussi sur des coordinations d'associations.
Vous en sentez certaines sur la sellette, justement, par rapport à ce contexte ou remise en cause mais... sur leur pertinence, voire leur existence
On a une procédure un peu plus large que ça qui est en train de s'établir au niveau de la promotion de la santé au niveau régional, puisque l'agence régionale conventionne avec beaucoup d'associations, des associations de taille, je parle de l'agence régionale de santé, et puis va pouvoir permettre à des structures comme les nôtres, la FRAPS ou d'autres structures, de se regrouper et de pouvoir maintenir en tout cas un bien-vivre et une activité sur le territoire. Donc on a des contraintes qui viennent de toutes parts aujourd'hui. Après, il faut être assez... Alors, j'ai envie de dire intelligent, mais là, je me fourvoierais. Faut essayer d'avoir un peu de bon sens dans le pilotage global de cette action de promotion de la santé sur nos territoires, et surtout de penser aux salariés qu'il peut y avoir dans ces associations, aux services qu'ils proposent, et surtout à la population qui subit, quelque part, toutes ces contraintes budgétaires, entre autres. Ouais.
Puis bon, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire, ce mois de novembre.
Et oui,
vous tient à cœur aussi.
Beaucoup de choses, ce mois-ci.
Voilà, c'est un grand mois que le mois de novembre. Alors justement, hein, donc, pour revenir sur cette semaine d'action, s'est déroulée, vous l'évoquiez tout à l'heure, bien l'ouverture, la journée régionale de lancement, finalement, de cette semaine. Hier, c'était au conseil régional à Orléans, à l'hôtel de région.
Oui, une très belle journée avec la présence de Mme Bouygard, qui est la directrice générale de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, et puis François Bonneau, président de région, pour le lancement. Ils ont pu dire aussi l'intérêt qu'ils portaient à la santé, à la promotion de la santé. Ce sont des financeurs, faut le souligner. On est financé par, là, sur cette action régionale, par trois financeurs particulièrement, Conseil régional, ARS et la CARSAT. Donc, faut saluer le courage qu'ils ont de pouvoir financer une semaine entière consacrée à la promotion de la santé et l'importance qu'ils accordent à ce sujet. On a eu la chance hier d'avoir la présence d'un monsieur, d'un professeur de santé publique de renom, Jean-Pierre Deschamps, qui nous a donné un peu le parcours de la promotion de la santé et de la Charte d'Ottawa, les différents événements qu'il y a pu y avoir dans le temps, mais aussi nous donner les dérives qu'il peut y avoir sur cette fameuse charte et ses axes de promotion de la santé, et peut-être sa vision, en tout cas, de la promotion de la santé aujourd'hui. Donc, c'était plutôt intéressant.
Donc, un regard critique.
Un regard critique. Il est très libre d'esprit. Et ce qui est intéressant pour lui, je vous cite un exemple hein, pour que vous me compreniez complètement. En promotion de la santé et en santé communautaire aussi, c'est un peu lié tout ça. Il y a un véritable intérêt pour le pouvoir à donner à la personne, à la population et au groupe en santé communautaire pour être acteur de sa santé. Et on a souvent tendance à penser en promotion de la santé que c'est difficile pour une société comme le nôtre qui est un peu hiérarchisée de pouvoir donner beaucoup trop de pouvoir au peuple, même si c'est pour sa santé, en tout cas pour pouvoir travailler sur sa santé. On est en période d'élection, donc c'est toujours intéressant de pouvoir avoir...
On pourrait le transposer sur
différents sujets. Et donc, il peut y avoir certains freins donc, sur cet empowerment, ce pouvoir aux associations, aux populations pour pouvoir travailler. Mais en même temps, on voit que ça commence à se décanter aujourd'hui, puisqu'on parle de plus en plus de promotion de la santé, on parle de plus en plus de démocratie participative. Encore faut-il que dans les faits, on puisse le vivre et le retrouver.
Il faut
que ça évolue tranquillement.
Mmh. On va quand même revenir rapidement, effectivement, rapidement, on a encore un bon quart d'heure hein, maintenant, pour évoquer quand même donc, les actions que vous allez mener dans toute la région. Hein. En l'occurrence, il y a des événements, des portes ouvertes, des moments de rencontres. Gilles Lasvira, c'est ainsi que vous avez imaginé cette semaine ?
C'est ça. Donc beaucoup de rencontres, notamment dans le département. On va faire un petit zoom plus dans le département. Ce matin, pour ceux qui le souhaitaient, parce qu'il est déjà un peu tard, c'était de 9h à midi et je dois rejoindre mes collègues. Il y avait un travail sur une conférence, en tout cas, sur développer les habiletés relationnelles des jeunes. Donc, échange sur les apports des approches CPS, compétences psychosociales auprès des jeunes, donc avec la participation de la Maison des ados, de VRS, du diocèse, de l'école REP Rabelais, de l'AMPA 41. Madame Zampolin est avec nous. Et donc, voilà, c'est tous ces partenaires qui sont acteurs, en fait, de ces journées. La FRAPS ne fait que coordonner, être présent. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser les différents acteurs de la FRAPS complètement participer et être acteur de ces journées.
C'est une coordination, en fait, au niveau de la FRAPS, c'est ça.
Complètement.
Donc, il y a effectivement cette rencontre qui se déroule en ce moment même, en espérant ne pas trop l'avoir perturbée en vous accueillant en studio. C'est un plaisir, notez-le néanmoins. Demain, mercredi, il y aura la projection aussi d'un film, La Sociale.
La Sociale.
Qui sera au Lobis.
Au Lobis, donc un film forcément, j'ai envie de dire, de qualité. Le réalisateur sera présent. On trouvera également Madame de Claire Dulac, qui est présidente du CIS, le collectif interassociatif sur la santé, et qui a été anciennement directrice de la CPM 45. Et puis Dominique Durand, qui est ancien rédacteur en chef des revues mutualistes. Donc un film très intéressant qui va attirer certainement beaucoup de monde avec un vrai débat derrière.
Sous-titré Vive la Sécu, ce film.
Vive la Sécu.
Voilà, pour redonner un petit peu le ton de ce film de Gilles Perret, le réalisateur qui sera donc présent des conférences également. On va rester sur le Loir-et-Cher, puisque je crois que au niveau de la Maison Bleue se déroulera donc une conférence connectée.
Oui, c'est ça. Il y a un temps au niveau de la Maison Bleue qui est intéressant. La Maison Bleue a d'ailleurs qui est intervenu hier aux côtés de la Mutualité française et de la CARSAT sur la présentation de cette maison et les enjeux demain de tout ce qui est santé connectée pour les personnes en difficulté ou ayant un handicap. Donc il y aura un vrai atelier hier, jeudi, sur le handicap et promotion de la santé, donc connaître les freins et leviers à l'organisation d'actions de prévention, donc en lien avec l'ADAPI 41, le CATTP, le service psychiatrique adulte du CH Blois, l'ITEP, voilà, donc avec les partenaires en fait du médico-social.
Et puis il y aura également jeudi cet atelier donc handicap et promotion santé effectivement,
oui, c'est ça.
Dans l'après-midi, donc voilà, qui témoigne aussi donc de quelques actions. Il y en a d'autres qui se dérouleront dans le département. Je crois qu'il y aura la conférence sur la loi de modernisation hôpital, donc ce sera vendredi.
C'est très important. Vendredi on va faire un vrai zoom sur la loi de modernisation avec aussi le volet hôpital promoteur de santé. En invité, il y aura l'ARS avec Edmond Guillou, qui est responsable du pôle prévention et éducation pour la santé. Il y aura M. Server Lorenze, qui est le directeur de l'hôpital de Blois, qui va faire un vrai zoom sur l'hôpital hors des murs et aussi le travail de ceux qui sont hors des murs, comme nous autres, dans l'hôpital. Donc ça sera assez intéressant de pouvoir confronter les points de vue. Ça se passera au sein de l'hôpital, au niveau de l'amphithéâtre. C'est libre, c'est ouvert à tous. Je ferai le modérateur sur ce temps-là. J'excuse d'emblée Monsieur le maire qui ne sera pas présent, Marc Gricourt, mais qui sera représenté. Et donc oui, c'est un temps d'échange plutôt intéressant, je pense, pour toutes les personnes, quelles qu'ils soient d'ailleurs, qui seraient intéressées sur cette fameuse loi,
sur la santé et
sur les différents enjeux.
Voilà, c'est ça. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour des différentes programmations en Loire-et-Cher. On peut retrouver naturellement sur le site de la FRAPS le menu exhaustif, bien évidemment, dans toute la région, sur le www.frapscentre.org. On marque une petite page de pub tout de suite dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer, en l'occurrence, les actions relayées aussi par les associations. À tout de suite.
Le plein de tubes, le plein d'infos.
Plus FM, plus on l'écoute, plus on aime.
Plus FM.
Plus FM.
L'école-collège Notre-Dame de Vineuil, établissement à taille humaine, accueille les élèves de la maternelle à la troisième pour y développer le sens de l'effort, ouvrir son regard à l'autre et établir des repères solides. Groupe scolaire Notre-Dame de Vineuil, rue Georges Sand, téléphone 02 54 42 60 60 ou www.notre-dame-vineuil.com. Notre force, une vision éducative commune et un partenariat avéré avec les familles pour la réussite de chacun.
Du Du 22 au 26 novembre, semaine du spa chez Le Comte Hydrobulle à Fontaine-en-Sologne. Des offres promotionnelles exceptionnelles. Nouveau showroom dédié au bien-être. Nouvelle gamme de spa. Profitez des bienfaits du massage, détente, aromathérapie. Le Comte Hydrobulle, c'est aussi un choix de sauna, hammam, cabine chaleur pour le bien-être en profondeur de votre corps. Le Comte Hydrobulle, un interlocuteur unique de votre projet à sa réalisation. Ne manquez pas du 22 au 26 novembre, la semaine du spa de 10h à 12h et de 14h à 18h. Journée continue le samedi chez Le Comte Hydrobulle à la Gaucherie entre Blois et Romorantin à Fontaine-en-Sologne. Les établissements catholiques de Blois Centre s'organisent pour mieux coopérer et enrichir l'offre scolaire et éducative. Cette communauté d'établissements sous contrat d'association avec l'État propose des parcours personnalisés de la maternelle au post-bac, permettant à chaque élève d'être un acteur de son orientation. Les équipes de Saint-Charles, Sainte-Marie, La Providence et Notre-Dame-des-Aides se donnent des priorités et proposent des horizons pour réenchanter l'école. Venez découvrir notre blog comedbloiscentre.org.
Plus FM. Plus FM Vendôme.
Plus FM Vendôme.
97.4.
Le mag de Plus FM.
Le Mac de Plus FM consacré à la promotion de la santé ce matin dans le cadre des 30 ans de la charte d'Ottawa, charte signée le 21 novembre 1986, hein, qui à travers donc ces cinq actions majeures, ces cinq axes hein, que nous avons évoqués en première partie d'émission, ont permis vraisemblablement de faire avancer les choses. 30 ans plus tard, c'est en quelque sorte un état des lieux, bien sûr, que l'on fait du côté de la FRAP, c'est la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé, qui fédère donc une soixantaine de structures à travers la région et qui organise donc cette semaine de rencontres justement autour de ces nombreux partenaires dont certains sont dans ce studio. On les en remercie à nouveau. Laetitia Zampolin, donc directrice de l'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Vous nous avez bien sûr présenté hein, la structure, de quelle manière avec vos équipes vous intervenez en ce qui concerne donc toute forme d'addiction. Addiction, finalement. Alors, bien sûr, on est en novembre. Il y a eu cette grande opération qu'on a eu l'occasion donc de relayer. Hein, donc fin octobre, c'est le mois sans tabac, ouais. Hein, qui semble quand même rencontrer un bel écho. Hein, donc auprès des citoyens, tout simplement.
Oui, ça fonctionne. On voit que cette action vraiment soulève un engouement et surtout est aussi beaucoup relayé par aussi comme voilà par la radio, par la télé, par donc on voit que il y a au niveau du public en tout cas il y a un véritable engouement. Les kits sont distribués quand même plutôt bien. Il y a une vraie demande donc, et un vrai intérêt. Donc voilà, on espère que ce sera reconduit l'an prochain.
Donc voilà, hein, cette opération effectivement donc a rencontré un très bel écho, un écho très important hein, oui. Donc, à travers ce suivi sur un mois, ce pari, ce défi aussi quelque part. Hein, c'était l'idée.
Oui. Alors il y a beaucoup d'associations qui sont bien sûr dans ce mouvement, dans cette dynamique, qui travaillent auprès des différents publics, parce que on peut parler prévention auprès du grand public, mais on n'intervient pas de la même façon auprès d'un grand public, auprès des jeunes, que aussi auprès des publics en situation de précarité. Voilà, donc tout ça, c'est des manières différentes d'intervention et justement, ça permet de développer tout ce panel, d'où aussi l'intérêt que ça peut susciter.
Voilà, donc naturellement, c'est adapté. Hein.
Bien sûr.
Il y a des accompagnements ou des actions de promotion adaptées donc à ces différents publics. Dans le cadre de cette semaine hein, autour de la charte d'Ottawa, des moments forts. Bon, il y en a un qui se déroule en ce moment, hein,
bien
en
sûr.
L'occurrence, dans les locaux de la FRAP, avenue Monory.
Bien sûr. Où effectivement, alors ce matin, la conférence se base sur les compétences psychosociales, finalement, hein, en quoi les acteurs de terrain peuvent développer les compétences psychosociales auprès des différents publics, quels outils ils utilisent et quelles méthodologies ils prennent. Et ensuite, alors, pour l'ANPA, mais nous, puisque Il y a énormément de choses qui se font durant cette semaine. Donc l'AMPA 41 a pris un peu le parti pris de mettre en place des portes ouvertes plus tardivement sur
début
son
2017,
de son association,
hein.
Voilà, fin 2016 début 2017, puisque de toute façon la prévention et la promotion de la santé c'est tout le temps, donc voilà, ça permettra
de
mettre
en
continuité, voilà.
Et puis on vous accueillera à nouveau en studio à cette occasion,
avec plaisir.
Voilà, merci. Au niveau de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, pardon, Laetitia Chéreau. Bon, ce n'est pas vraiment une structure avec laquelle vous ouvrez les portes.
Oui, on n'accueille pas du public.
Voilà, effectivement. Mais vous participez à des actions collectives ?
C'est ça. Il y a différentes formations, notamment sur les compétences psychosociales, où nous, ça peut être intéressant pour les professionnels de justement faire le lien entre leurs pratiques éducatives et les compétences psychosociales. Comment les travailler avec les jeunes, avec quels outils, de quelle manière ? Et puisque c'est vraiment, on peut dire le cœur, dans le sens où, à la base, c'est comme on disait tout à l'heure, faire que les jeunes deviennent acteurs, mais avec des compétences sur la communication, sur gérer ses émotions, sur l'estime de soi, sur... tout ça, c'est très important. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc, à l'occasion de cette semaine, vous suivez un petit peu ce qui se passe, vous participez peut-être au niveau de la PJJ d'une manière ou d'une autre ? Pas forcément, enfin bon, parce que voilà, c'est une structure aussi qui, par son fonctionnement...
C'est ça. Après, ouais. On avait aussi, bien sûr, toute notre place à la journée d'ouverture, puisqu'on a une démarche nationale PJJ promotrice de santé, qui a pu aussi être présentée dans la journée de lancement, puisque la FRAP, c'est avec nous un partenaire pour justement mettre en œuvre cette démarche nationale, nous, pour la région. Et on travaille vraiment bien ensemble. On va construire ensemble des plans d'action pour voir à court terme et moyen terme, mais aussi plus long terme, pour penser la promotion de la santé dans nos pratiques. Tout ça, c'est important, comme on disait tout à l'heure, que la santé soit portée, mais à chaque échelon, finalement, autant national que chaque échelon, régional, et puis chez nous, la direction territoriale et dans chaque département.
Merci Laetitia. Françoise Poisson, donc mobilisation générale, donc à partir de vendredi pour la grande collecte de la Banque alimentaire. Ça, c'est votre actualité brûlante là, dans le cadre de cette semaine. Hein.
oui, là, on pouvait pas mieux tomber. Alors, je voulais simplement dire que l'année dernière, par exemple, on avait pu, avec la collecte, à recevoir l'équivalent de 125 000 repas dans le département du Loir-et-Cher. Parce que je précise que les denrées collectées ne s'en vont pas ailleurs, elles sont redistribuées dans tout le département. Alors, je voulais juste rappeler que la Banque alimentaire avait été créée en 1984 par Bernard Dandrel avec le Secours catholique, l'Armée du Salut, Emmaüs, le Centre d'action sociale protestant et l'Entraide d'Auteuil. Donc, ce qu'on appelle la première banque alimentaire d'Île-de-France, plus connue sous le nom de la BAPIF. Donc, on ne supposait pas à cette époque être encore là aujourd'hui, mais malheureusement, comme d'autres associations caritatives, bien, on n'est plus que jamais présent.
Et c'est un millier de bénévoles qui sont mobilisés ce
week-end. À peu près un millier de bénévoles qu'on a beaucoup de mal à fédérer, parce que faut reconnaître qu'il y a une sollicitation quand même très importante de part et d'autre, de toutes les associations. Donc, on est quand même le premier réseau d'aide alimentaire en France. Alors ça, j'en suis assez fière. On a 79 banques et 23 antennes qui sont présentes dans tous les départements, ainsi qu'aux Antilles et à La Réunion. On aide à peu près 1 900 000 personnes en 2015.
Et en Loire-et-Cher, vous disiez
alors, 10 000 bénéficiaires. Oui, 10 000 bénéficiaires. Ça aussi, on n'a pas, nous, ressenti l'arrivée des migrants. Ça n'a pas été pour nous une augmentation.
Il y en a 110 dans le département, dans le Blaisois en particulier.
Donc nous, personnellement, on n'a absolument pas, pour nous, on ne l'a pas ressenti. Donc, alors, redonne les dates, 25, 26 novembre.
Donc, vous serez dans les centres commerciaux.
Dans tous les centres commerciaux, de la plus petite épicerie à la plus grande GMS.
Voilà, grande et moyenne surface.
Oui, excusez-moi, oui, pardon, je suis désolée.
Voilà, mais je vous en prie, écoutez, bon courage en tout cas.
Merci,
bravo à la mobilisation des bénévoles, en tout cas pour ce week-end. Ne pas hésiter à aller vers eux pour ce moment qui est peut-être le moment le plus important de l'année, finalement.
Ah bah c'est puisqu'on n'a qu'une collecte ponctuelle.
Eh bien, merci Françoise Poisson, merci à tous nos invités donc, d'avoir participé à cette émission. Il est 10h passées d'une minute, on a un petit peu débordé, néanmoins c'est le retour de l'information tout de suite sur Plus FM. Très bonne journée.